Bonjour chers auditeurs, vous écoutez En Spectateur sur Transistor. Aujourd'hui, nous revenons sur la pièce jouée la semaine dernière en Théâtre Cantor, Ça arrive. Non, en fait, ça s'appelait It's Coming, parce que ça se passe aux States et parce que ça sonne mieux en anglais. Pour discuter de tout cela aujourd'hui, je vous présente mes trois critiques du jour. Il ne gagne pas en sagesse, surtout qu'il passe son temps à se faire arracher les dents correspondantes, Nicolas.
Ah merci Marie, je l'ai fait depuis une semaine celle-là.
Elle ne gagne pas non plus en sagesse, surtout vu la robe qu'elle envisage pour le gala, Mathilde.
Bonjour.
Et enfin, sous ses apparences calmes, c'est à elle que j'ai confié la critique du spectacle. Alors Maëlys, polémique ou pas polémique aujourd'hui ?
Petite polémique.
Petite. Alors, It's Coming, si vous avez écouté l'interview du metteur en scène Vincent Steinbach et de l'acteur Victor Assier, que je vous proposais dans le numéro 31, vous savez que c'était censé être court, mais bon. Court, mais bête. Les États-Unis, une catastrophe et une succession de tableaux loufoques à un rythme endiablé. Georges Le Clochard crie partout que c'est la fin du monde, cela lui vaut d'être nommé Premier ministre, le président Paulson est un enfoiré absolu qui doit gérer une crise planétaire, la journaliste veut le faire tomber pour devenir célèbre et payer à ses parents le ranch de leurs rêves, Butch le scientifique a besoin d'un héros pour l'aider à sauver l'humanité, le héros c'est John Hero, en pleine crise existentielle et bataille pour la garde de ses enfants. Forcément John Hero et la journaliste tombent amoureux, il y a un plan sauvetage de l'humanité, et à la fin, tout le monde meurt, et tout ça en 52 fucking minutes. Le temps d'une virgule pour faire retomber la pression, un extrait de la bande-annonce d'Independence Day en français, tellement savoureux. Et ce sera à Maëlys de nous donner son avis sur la pièce.
C'est le matin. Et bien que cela vous paraisse un jour ordinaire, ça ne l'est pas. Pour une raison extraordinaire.
Ah ! Merci Nicolas. Un clochard prophète qui prédit la fin du monde dans la rue, un charismatique savant qui découvre la fin du monde dans son laboratoire entouré de ses collègues groupies, un héros de l'humanité apte à sauver la planète que l'on vient chercher à la rescousse alors qu'il mène une vie de loser et qu'il voue un culte particulier à ses toilettes. Le président des États-Unis flanqué d'hommes dignes de Men in Black qui annonce qu'il va lancer des émissions de télé-réalité publique et une journaliste en escarpin prête à tout pour obtenir un scoop. Telle est la collection de personnages que la pièce It's Coming met en scène. Personnages tout droit sortis des séries B et autres blockbusters américains. Tous confrontés à un autre événement aussi hollywoodien qu'inéluctable, la fin du monde. L'affiche montrant un astronaute plantant le drapeau américain sur la Lune était aussi mystérieuse que prometteuse, et vu les échos dithyrambiques que j'avais eu de la pièce, de ceux qui l'avaient vue avant moi, je m'attendais vraiment à me prendre une comète sur la tête. Au final, une pièce joyeusement barrée, nourrie de références telles que Men in Black, Alien, avec de temps à autre des accents tarantinesques, qui parodie des nanars, mais qui rend aussi hommage à des chefs-d'œuvre. Bref, ça parle à tout le monde, et l'on se surprend de temps en temps à se demander « c'est dans quoi ça déjà ?» sans pouvoir déterminer dans quelle série B on a vu ça, tant ces stéréotypes imprègnent notre inconscient culturel. Par ce côté-là, la pièce It's Coming est subtile. Les acteurs sont remarquables, tant dans la justesse de ton que dans la gestuelle. Mention particulière au président des États-Unis qui était vraiment, vraiment bluffant. Le son est particulièrement bien réussi, parce que oui, en plus de jouer merveilleusement bien, les comédiens chantent, bruitent et jouent la musique de fond en direct. Rien que ça, c'est une bonne raison d'aller voir la pièce. Après, je n'ai pas tout aimé dans cette pièce. Certains partis pris du texte et de la scénographie m'ont vraiment dérangée, mais je crois que j'étais bien la seule, vu le rire généralisé dans la salle, visiblement conquise.
J'ai même Clément, été... big up à toi.
J'ai même été déçue du fait des échos que j'en avais eus. Le scénario m'a en effet beaucoup frustrée, on a une tripotée de personnages qui envoient du lourd, on a vraiment envie qu'il se passe des choses, qu'ils interagissent davantage. Je ne sais pas moi, que la journaliste charognarde fasse de vrais coups bas, que le président des États-Unis déclenche une guerre nucléaire. Et finalement, il ne se passe pas grand-chose dans cette pièce. Un bon quart est consacré à des scénettes du type « Pendant ce temps, en Arizona », des scénettes rigolotes et qui évoquent la fin du monde certes, mais qui sont selon moi secondaires par rapport aux protagonistes. Jusqu'au dernier coup de fil, on apprend des anecdotes sur les personnages qui n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se passer, sans les avoir vus réellement interagir et sans avoir vraiment compris qui était le protagoniste principal dans tout ça. On est saturé d'informations par les personnages qui parlent beaucoup, qui ont même une fâcheuse tendance à hurler pour tout et n'importe quoi. La polyphonie devient souvent cacophonique alors que l'intrigue reste pauvre, un peu décousue et la fin décevante puisqu'elle ne rappelle pas vraiment, les scénarios des séries B. Mon autre gros bémol, c'est les ressorts comiques, notamment de l'écriture. La pièce joue à fond la carte humoristique, tiens, c'est une comédie, me direz-vous. Mais là, on est au bord de la farce, c'est une comédie vraiment très stéréotypée, à la fois frénétique et très très chargée. On a l'impression que vraiment toutes les répliques ont juste été écrites pour faire rire. Tiens, on va mettre ça ici, c'est rigolo, c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Bizarrement, je trouve qu'en fin de compte, on a plein de bonnes idées loufoques et très drôles, comme le personnage mexicain qui est hilarant, comme le correspondant japonais qui se met à parler avec un accent québécois. Mais ces bonnes idées se retrouvent noyées sous une masse de choses beaucoup moins réussies selon moi. Donc alors, je ne suis pas fan de l'humour scatophile. Et voir quelqu'un prier le dieu du caca ou qui crie « je leur chie dans le cul » ne me fait pas hurler de rire. Ni même voir quelqu'un disserter sur ses déjections, que ce soit Jean-Marie Bigard ou le personnage de la pièce, malgré son vocabulaire savant et son ton héroïque comique. Voilà, c'est dit. En conclusion, on a une comédie sans prétention, qui ne fait pas du tout dans la dentelle, mais qui l'assume aussi. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que pour vraiment apprécier et oublier les petites imperfections du scénario et du décor, un peu foutraque, il faut le dire, il faut vraiment adhérer et se laisser transporter par le rythme et l'humour particulier de cette pièce, ce qui n'a malheureusement pas été mon cas, contrairement au reste de la salle qui se bidonnait, je le répète. Une pièce nourrie, riche, mais qui part un peu trop dans tous les sens à mon goût, et qui aurait gagné à en faire un peu moins, mais à le faire mieux.
Merci Maëlys. Alors, on va revenir un peu sur tout ce que tu as dit, c'est très intéressant. D'abord, sur l'aspect comique de la pièce, le metteur en scène avait bien dit dans l'interview que c'était un spectacle bête. Vous êtes d'accord avec cette idée que c'est vraiment un spectacle bête? Nicolas, je sens
que... Ah oui, moi je trouve que c'est un spectacle super débile, mais contrairement à Maëlys, en fait j'ai vraiment eu le même avis que Maëlys en regardant la pièce. Pendant la pièce, j'ai pensé à peu près les mêmes choses. Mais mon impression générale est plus favorable que celle de Maëlys parce que j'ai vraiment passé un très bon moment et tous ces trucs bêtes, l'humour pipi caca ça va bien 5 minutes mais
il y avait trop de scatophilie.
Ça m'a plu de faire pendant une demi-heure de voir des choses vraiment, vraiment super débiles comme ça pour me détendre finalement. Et en effet, si le metteur en scène celui qui a écrit finalement tous ces textes, a le parti pris de faire quelque chose de bête et de sans prétention, c'était même plus réussi que ce qu'on pouvait imaginer parce que c'est servi par des acteurs qui sont très bons, par une mise en scène qui est vraiment, quand je dis mise en scène, vraiment au niveau technique, qui était presque impeccable, hein, je veux dire, c'est ce papier toilette ex machina qui descend du plafond, c'est parfait, quoi. C'est le moment où j'ai le plus ri dans la pièce, parce que finalement, toutes les choses techniques, que ce soit le jeu des acteurs ou les objets, c'était vraiment réglé au cordeau.
D'accord, c'était impeccable de ce point de vue-là. Alors, en voyant la pièce, je me suis demandé si c'était justement si bête que ça, parce que, alors oui, il y avait tout l'humour scatophile, des gags un peu farcesques, comme disait Maëlys. En même temps, il y a aussi tout un humour quand même qui est fondé sur le cliché, sur le running gag, sur le second degré. C'est peut-être un peu plus subtil de ce point de vue-là. Mathilde, qu'est-ce que tu en as pensé justement de l'humour de la pièce? Déjà, est-ce que ça t'a fait rire? Et est-ce que t'es pas d'accord avec cette idée qu'il y a peut-être aussi deux degrés d'humour dans cette pièce comique?
Tu étais à côté de moi pendant la pièce, donc tu sais que ça m'a fait énormément rire.
Oui, mais les auditeurs n'étaient pas à côté de toi dans la pièce, Mathilde.
Quand sais-tu?
Après, si nos auditeurs étaient à moins de 100 mètres du théâtre Cantor, ils ont probablement entendu Clément.
Exactement. Non, alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et je voulais justement rebondir sur cette idée que... Est-ce que c'était vraiment une pièce bête? Alors moi, j'aurais tendance à dire pas tant que ça. Parce que finalement, j'ai trouvé peut-être... Contrairement à ce à quoi je m'attendais, surtout dans les 5 premières minutes et ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait énormément de contenu, on va dire, au-delà de cette recherche du rire pour le rire et ce côté farcesque que je pense qu'ils assument tout à fait. Et finalement, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait effectivement énormément de choses d'une grande profondeur, je trouve, finalement, ce jeu avec les codes hollywoodiens et justement avec nos attentes. Maëlys disait, on ne s'attendait pas à ce que ça finisse comme ça, on ne s'attendait pas à ça, on aurait voulu ça. Moi, je trouve ça très drôle, ce jeu qu'il y a eu constamment avec les attentes du spectateur. Alors voilà, moi, énormément de choses. Peut-être que je surinterprète et que ça ferait rire les gens. Mais
moi, justement, par rapport aux attentes du spectateur, un truc qui m'a interloqué un peu dans cette pièce qui contrastait avec le côté débile qui avait l'air beaucoup plus plus, on va dire, symbolique et sur quoi on pourrait réfléchir, c'est à la fin de toutes ces petites scénettes qu'on voyait pendant ce temps-là en Arizona, à chaque fois, tous les acteurs se retournaient vers un endroit et criaient « Ah !»
Oui,
c'est genre,
c'est typique la fin du monde, de voilà. Certains dessins animés, par exemple.
Voilà, c'est ça, mais finalement, à chaque fois, au début, on se dit « Bon, bah voilà, c'est l'apocalypse, tout ça. » Et ça arrive plusieurs fois, et on a vraiment l'impression qu'il y a un symbole derrière tout ça qu'il faudrait peut-être analyser, décrypter, ce que j'ai pas réussi à faire et ce que j'ai pas vraiment essayé de faire non plus, mais ça contraste un peu avec le côté débile.
Ça m'a donné l'impression qu'il y avait beaucoup plus à comprendre que ce qu'on voit au premier abord, et voilà.
Alors justement, l'absurdité est assez présente dans la pièce, il y a une grande partie de l'humour de la pièce est fondée dessus. On a des scènes qui s'enchaînent très rapidement, mais Alice le disait, avec pendant ce temps dans un studio hollywoodien, pendant ce temps en Arizona, qui sont des intermèdes brefs, qui n'apportent rien spécialement à l'intrigue, on est assez d'accord là-dessus. Il y a aussi une profusion des personnages, ils sont 5 acteurs, ils ont 5 personnages principaux, mais aussi une foule d'autres. Et on a l'impression que tout ça est un peu gratuit, que ça n'a pas vraiment d'utilité autre que... Ils le font parce qu'ils peuvent le faire et qu'ils nous montrent qu'ils peuvent le faire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette gratuité ? Vous trouvez que ça a du sens quand même ou...
Alors moi, ce que je voulais souligner, on n'a pas trop eu le temps d'en parler là pour l'instant, c'était, vous voyez ces micros qui étaient disposés de part et d'autre de la scène et qui permettaient aux acteurs qui n'étaient pas en scène de faire à la fois des bruitages et des fonds sonores, montrer un peu en quoi parfois la musique peut vraiment créer une ambiance, en particulier dans nos imaginaires un peu hollywoodiens, et j'ai trouvé ça vraiment brillant parce que c'était à la fois une très bonne idée et puis c'était très bien fait, faut le dire aussi, finalement il y avait des bons chanteurs quand même. Et des bons bruiteurs.
D'accord, donc ça a apporté quelque chose dans cette espèce de recréation d'un univers américain stéréotypé.
Oui, enfin ça a surtout apporté quelque chose à l'humour parce que moi j'aime bien les bruitages.
Et toi, Mélisse ?
Moi, pour revenir sur le côté absurde et sur l'enchaînement de pièces qui n'ont pas grand chose, enfin
de l'impression de zapping un peu.
Voilà, ouais. Qui n'ont pas grand chose à voir. Moi, je dis que c'est très bien qu'une pièce soit nourrie et plein de références et voilà, et mobilise vraiment plein de choses du fond commun culturel du cinéma américain. Mais après, qu'est-ce qu'elle en fait après, vous voyez.
Mais alors justement, le fait d'avoir toutes ces petites scénettes qui s'enchaînent, qui sont zappées, qui sont stéréotypées, ça renvoie en fait à l'idée de la télé-réalité, qui est l'histoire dans l'histoire. À un moment, on a une scénette où on voit présentation des personnages de cette télé-réalité que le président veut mettre en place, et on se rend compte que c'est exactement les personnages principaux de la pièce, c'est-à-dire le président, la journaliste, le héros, le scientifique, tout ça. Et donc, du coup, c'est peut-être, si on réfléchit à ça, à l'utilisation des stéréotypes hollywoodiens, c'est peut-être aussi une critique, alors bon, là, pareil, on surinterprète probablement, hein, mais une critique de cette télé-réalité qui essaie de garder seulement les codes dans le fond artistique américain, garder seulement les codes et, on va dire, la bêtise du téléspectateur pour gagner de l'argent.
Tout fait sens. Alors, un truc qui faisait sens aussi, ou pas, vous allez me dire, c'est en scène, le sens du décor. Alors, je sais que Mélis a un coup de gueule à piquer contre le décor.
Non, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste que je pense que ça aurait pu être un peu plus soigné. On avait le petit bordel des acteurs qui étaient derrière, en arrière-fond. Les rideaux blancs n'étaient pas bien tendus, alors on projetait une image. C'était un peu toute cette image qui faisait qu'on était à tel endroit ou à tel endroit. Elle était de traviole, le rideau était plié, il n'était pas droit. Ouais. Et, c'est une pièce sans prétention, certes, mais il y a des petits détails quand même, on aimerait qu'ils soient soignés.
Moi, je pense que ça participe d'une vraie intention, le fait de nous montrer les ressorts, nous montrer les grosses ficelles derrière tout ça, c'est comme ça que
voilà,
je l'ai compris.
Moi, le fait d'avoir ces rideaux là au milieu, un peu mal mis, un peu à l'arrache, parce que plusieurs fois dans la pièce, il y a le personnage qui est sur scène pendant que les 4 autres sont en train de se changer, et puis il essaie de meubler la conversation en expliquant aux spectateurs que, oui, enfin, on n'est que 5, alors faut laisser à mes potes le temps de se changer. Bon, ça faisait un peu, ça sortait, ça brisait le quatrième mur, mais donc du coup, ça m'a pas dérangé, comme dit Mathilde, de voir les rouages. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est, bon, là, c'est un peu mon point de vue de spectateur, un peu en dehors de la pièce. Quand on est arrivé, on nous a dit de nous placer plus vers le centre des places. Donc, clairement, c'était pour mieux voir cette scène centrale à l'intérieur des rideaux. Mais je trouve ça un peu dommage parce que quand on a un théâtre, on utilise la forme du théâtre et on fait en sorte que tous les spectateurs puissent voir. Je veux dire, là, rien que par ce choix de mise en scène, ça empêchait d'avoir plus que tant de personnes parmi les spectateurs. Bon, moi, c'est quand je suis arrivé, ça m'a un peu perturbé. Bon, après, le spectacle a commencé, c'était très bien tout ça. Mais bon, c'est, je pense que c'est un peu ça mon problème avec cette mise en scène. Mais le fait d'avoir de voir les rouages, c'est...
D'accord, parce que j'objecterais simplement que certes, on est un espace scénique utilisé assez réduit, mais finalement, tout l'espace scénique est utilisé puisqu'il est aussi occupé par les coulisses. Alors, on va en reparler justement parce que, bon, au début, on nous a vendu un spectacle bête. Finalement, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de méta-théâtre dedans. Alors, bah voilà, on voit les coulisses, on voit les changements de décor, on voit les changements de tenue, on mate des acteurs en sous-vêtements. et puis, même dans...
Ça a marqué certaines personnes plus que d'autres, n'est-ce pas, Marie?
N'est-ce pas? Non, et puis même à l'intérieur de la diégèse, si on utilisait des mots très sérieux, on a quand même très souvent des références méta-théâtrales. Par exemple, d'emblée, on a ce personnage du second clochard, Bill, dont, dès le début de la pièce, on prend complètement congé et on le dit. On nous annonce clairement qu'il est secondaire, qu'on le reverra pas. Il y a un moment, les personnages s'étonnent d'avoir changé de lieu et s'étonnent d'avoir vécu une ellipse. Donc,
oui, exactement. Ça, c'était très bien.
Scènes, voilà, la journaliste qui précise dans un monologue pour permettre aux autres acteurs de se changer que elle est en train de s'éterniser un peu sur son monologue parce que voilà, ils ne sont que cinq, comme le disait Nicolas. Voilà, comme si en fond, en scène n'était pas capable de nous proposer un spectacle totalement bête, peut-être. qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de cet aspect métathéâtral dans une pièce quand même très farcesque? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était bien fait?
Moi, j'ai vu beaucoup d'humilité, et c'est quelque chose, j'arrête pas de le dire dans cette émission, qui me touche beaucoup dans le théâtre, c'est cette humilité-là, alors même qu'il y a un message très profond derrière. Et une vraie réflexion sur ce que c'est que le théâtre, et ce que c'est finalement que le spectacle, le divertissement. Je sens que Nicolas se moque de moi.
Mais moi, j'ai plutôt bien aimé ces petits aspects-là, mais qui étaient, à mon avis, un peu trop rares, en fait.
Oui, alors moi, je te rejoins complètement, c'est... Ça rejoint un peu ce
c'était,
que tu as dit
et pour moi, c'était pas
ta chronique.
Ouais, c'était pas forcément une réflexion sur le théâtre, c'était juste des choses drôles en fait, qui surprenaient. Des bonnes idées, et c'était, ça avait pas une visée un peu métaphysique.
D'accord, pour voilà, faire rire, pas pour faire réfléchir.
Voilà,
c'est
mon avis.
Ça. Et alors moi, voilà, c'est ça, c'est ces petits passages de méta-théâtre, bah, s'ils avaient voulu vraiment faire quelque chose à propos de ça, ils auraient dû le faire plus, parce que c'était vraiment saupoudré. Et au contraire, s'ils ne voulaient pas faire ça, bah, moi, ce n'est pas les moments qui m'ont fait le plus rire, parce que je sentais que ce n'était pas assez abouti.
D'accord. Merci, Nicolas. Alors, on va conclure. La fin du monde en 50 minutes, Apocalypse Now, ça vous a plu, Maëlys?
Oui et non, parce que... Alors moi, contrairement à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, le fait que qu'on ait une espèce de fin du monde différée avec en Arizona, ils se prennent une comète. Enfin, moi, j'ai pris ça comme une comète qui est arrivée du ciel, mais je sais pas. Bon, c'était peut-être une maladie. On sait pas. Le fait que ce soit un peu différé partout, ça, moi, ça m'a dérangée parce que j'avais l'impression qu'on avait une espèce de temporalité complètement éclatée. Et ça me... Enfin, j'avais déjà du mal à suivre l'histoire. Alors, si on commençait à éclater comme ça, le dénouement... Ouais, ça m'a un peu gênée. Ouais,
moralité, faites plus simple. Mathilde ?
Faites plus simple, voilà.
Ah, moi, vous l'aurez compris, je défendrai cette pièce contre Maëlys jusqu'à la mort.
Et Nicolas ?
Eh bien, moi, je suis assez content de faire la synthèse entre Mathilde et Maëlys et dire que, sur le coup, il y a des choses qui m'ont un peu déçu. En fait, voilà, c'est ça. C'est un peu mon sentiment en sortant de cette pièce, c'est que j'ai été déçu parce que j'ai passé un excellent moment et j'ai l'impression que j'aurais pu en passer un encore meilleur.
Nicolas s'élève au-dessus du débat.
Merci à tous les trois. Chers auditeurs, il est temps de refermer ce 32e en spectateur. Je remercie Butch le scientifique, alias Nicolas, la journaliste, alias Maëlys, et Georges le clochard, alias Mathilde. Notre John Hero à nous, c'était Clément, à la technique pour ce numéro, et je voudrais rendre ici hommage à son rire si délicieux, qui a beaucoup contribué au fait que j'ai passé un bon moment en cantant la semaine dernière. Je vous donne rendez-vous pour le prochain spectacle dans notre partenaire en scène. Il s'agira de La véritable histoire d'Émilie Mersenne, les 23 et 24 février, toujours en Théâtre Cantor. D'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.